Martine, vous êtes praticienne en hypnose. Bonjour.
Bonjour Laura. Oui, effectivement, j'ai fait une formation pour être praticienne en hypnose. C'est quelque chose qui m'importe beaucoup. Je suis infirmière de formation initiale et c'est une technique qui apporte un plus pour accompagner les gens au quotidien.
Et qu'est-ce que l'hypnose ?
Alors l'hypnose, on sait tous que on a tous vécu à un moment ou un autre un état hypnotique. C'est un phénomène naturel quotidien. C'est un moment où c'est comme le temps qui s'efface. Par exemple, à qui ce n'est pas arrivé de faire un trajet en voiture et d'arriver à bonne destination sur un trajet habituel. Et puis moi, ça m'est arrivé de me demander mais qu'est-ce qui s'est passé pendant la durée du trajet? Il y a une partie de moi qui a conduit, qui s'est arrêtée au feu rouge, au stop, et puis une autre partie qui était ailleurs, qui était comme déconnectée. Donc c'est une espèce d'état de conscience modifié, voilà, de déconnexion d'une partie et une autre partie qui fait le job. Voilà, c'est un moment où le temps s'efface. C'est par exemple aussi quand on est absorbé par une tâche ou la lecture d'un livre ou dans un film. C'est un moment où on est ailleurs, il y a une partie de nous qui est ailleurs. Se mettre en état d'hypnose dans les séances d'hypnose ou le faire avec un praticien ou soi-même, c'est reproduire cet état tout à fait intentionnellement. Avec un objectif, que ce soit un objectif de détente, pour son évolution personnelle, pour un mieux-être. Voilà, c'est cet état naturel, mais le provoquer, c'est reproduire cet état. Et tout le monde peut y avoir accès, même si tout le monde n'entre pas dans un état hypnotique de la même façon. Chaque expérience est unique. Il y a, pour certains, c'est très facile d'entrer en hypnose. Quelques suggestions verbales vont suffire direct. Et puis pour d'autres, il y aura besoin d'une approche plus indirecte parce que il y a le mental qui est là, qui essaye d'analyser ce qui se passe, qui a des objections. Et donc, il faut contourner ce mental et ça permet de le contourner et afin d'atteindre l'inconscient qui, lui, va aller chercher les ressources que l'on a à l'intérieur de nous, nos ressources propres, et trouver nos solutions pour répondre à ce besoin que l'on a de changer, d'apporter un mieux-être. Voilà. Et puis plus on pratique l'hypnose, plus c'est facile d'entrer en hypnose. C'est une question d'entraînement. Cet état hypnotique permet de dépasser nos limites de tout ce qu'on a appris. On a des croyances, on a des barrières que soit les autres nous ont mises ou que nous on s'est mis, des choses, des expériences que l'on a eues qui sont plus ou moins parfois très très traumatiques. Et ces expériences induisent derrière un blocage et cet état permet de lever ces blocages et de nous permettre de poursuivre notre chemin du mieux possible. Ça nous ouvre d'autres possibles. C'est vraiment trouver la meilleure solution pour changer un comportement, pour mieux vivre, pour modifier des émotions aussi qui sont difficiles, pénibles et qu'on a du mal à gérer, d'aller chercher le pourquoi et d'aller modifier tout cela.
Il existe différents types d'hypnose.
Alors, bon, différents types d'hypnose, il y a l'hypnose spectacle que tout le monde connaît, c'est ce qui a rendu un peu... Monsieur Mesmer a rendu l'hypnose de spectacle très très à la mode, mais cette hypnose c'est souvent fait avec des spectateurs soit qui ont été repérés comme très facilement hypnotisables et qui sont d'accord pour être un peu le jouet de ces personnes. Et soit il y a des comparses, bien sûr, dans la salle qui rentrent facilement en hypnose et qui adhèrent à ce schéma. Mais ce n'est pas du tout ce dont il s'agit ici. C'est cette hypnose spectacle qui ne rend pas service du tout à l'hypnose. Il y a l'hypnose classique traditionnelle qui est beaucoup plus directive, qui est plus utilisée dans le milieu médical. On a tous entendu parler d'interventions chirurgicales dont l'anesthésie a été faite sous hypnose, l'hypnoalgésie. Donc c'est une hypnose beaucoup plus directive qui aussi est utilisée pour les personnes qui souhaitent perdre du poids, pour l'arrêt du tabac. Où là vraiment on ne donne pas le choix même si la personne a décidé de faire cette démarche. Et puis il y a l'hypnose ericksonienne qui est apparue un peu plus tard, qui est une méthode beaucoup plus douce. C'est une méthode où on s'adapte vraiment à la personne. On s'adapte, on est respectueuse de la personne. Donc, la personne est guidée par des suggestions, mais elle doit être d'accord pour partir. Il y a toujours quelque chose en elle qui permet de garder un minimum de contrôle. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et donc, la personne est d'accord pour accomplir le changement positif. Et donc, on l'accompagne. On l'accompagne dans ce lâcher-prise pour aller plus en profondeur et trouver les solutions. Et puis il y a l'auto-hypnose. Donc là, c'est vraiment apprendre soi-même à entrer dans cet état hypnotique pour lâcher prise et amplifier des états qui sont souhaités. La méditation est une sorte d'hypnose sans objet, alors que l'hypnose, vraiment, c'est voilà, lâcher prise, mais avec un but réel.
Quelle est un peu l'histoire de l'hypnose?
Oh, l'hypnose, elle date de très très longtemps. Il y a sûrement, probablement, de la préhistoire. Il y a des traces, paraît-il, dans les écrits égyptiens de 3000 avant Jésus-Christ, du temps de Ramsès II, de séances d'hypnose. Dans les temps modernes, on parle plus d'hypnose depuis le 18e siècle et puis le 19e, avec les médecins, les chirurgiens qui s'y ont intéressés. Parce qu'avant, il n'y avait pas d'anesthésie. Donc, il y a eu des expériences réussies voilà, d'intervention à cette époque-là. Puis il y a eu les fameux neurologues, le docteur Charcot et surtout le docteur Freud, qui l'a utilisé avant un petit peu de la rejeter dans un deuxième temps. Et puis il y a eu monsieur Erickson, qui est un psychiatre américain du début du XXe siècle, hein, il est né en 1901, et qui a d'abord pratiqué sur lui-même parce qu'il était atteint de poliomyélite quand il était jeune homme à 17-18 ans. Et donc l'autosuggestion lui a permis de s'aider et de dépasser cette épreuve. Et ensuite, donc, dans son métier de psychiatre, il a développé beaucoup de techniques hypnothérapeutiques. Et c'est lui qui a introduit ce style beaucoup moins directif et beaucoup plus douce dont je parlais tout à l'heure. Et c'est ce qu'on appelle donc l'hypnose ericksonienne de Monsieur Milton Erickson. Il partait du principe que le changement, il ne peut venir que de la volonté de la personne. C'est elle qui fait, qui a l'origine et qui accepte ce qui se passe. Le praticien, il est juste là pour l'aider, pour l'accompagner avec la technique.
Et au niveau des indications et contre-indications?
Alors, les indications, c'est souvent du développement personnel, hein, pour être mieux. On n'est pas mal, mais on a envie d'avoir du mieux, que ce soit, par exemple, dans le cadre du travail. Combien de personnes ont le trac pour prendre la parole en public? Ça permet de lever des blocages par rapport à cela, par rapport à son positionnement, de mal-être. Ou tout simplement pour booster un petit peu ses capacités, de sa concentration, se préparer aux examens. Bon, tout ce fameux stress hein, dont on parle tant, et le stress au travail. Aussi, quand on veut changer un comportement impulsif, un comportement, c'est plus fort que nous, mais on n'a plus envie de cela. Donc, voilà, donc c'est aller comprendre d'où ce comportement vient, ou peut-être... Il n'est pas nécessaire non plus de tout comprendre, mais d'arriver à modifier ce comportement pour être plus en adéquation avec les valeurs de la personne et ce qu'elle souhaite. Et puis, il y a tous ces problèmes de mal-être, hein, les problèmes, les angoisses, les deuils, séparation, perte de travail, suite à un événement traumatique, les blocages que l'on peut avoir, tous les problèmes psychosomatiques, hein, migraines, maux de ventre, problèmes cutanés, problèmes de sommeil aussi. Bien sûr, il faut surtout s'assurer que la personne a bien consulté avant, qu'elle a bien consulté un médecin, voire un psychologue, pour parler de tout ça, voir si elle a besoin de prendre un traitement, hein, s'il y a vraiment une dépression suite à un événement très traumatique. Et l'hypnose peut venir en complément de tout cela. Mais jamais, jamais arrêter un traitement sans un avis du médecin. Ça, on le rappelle aux personnes qui viennent nous voir. On s'assure bien qu'il y a eu un avis médical et que la personne, en tout cas, a pu voir les médecins, les autres professionnels compétents. Après, pour les contre-indications, il y a les maladies psychiatriques graves comme la paranoïa, la schizophrénie, la psychose, où les personnes sont déjà pas bien. Donc là, c'est vraiment, vraiment contre-indiqué. C'est pas la chose à faire. Il faut vraiment s'assurer que les personnes, quand on a un doute, les orienter vers un médecin, voire un psychiatre, pour être sûr qu'ils auront une prise en charge bien adaptée. Et puis, surtout, ce qu'on ne fait jamais en hypnose, en tout cas moi, c'est accueillir des personnes ou en tout cas aider les personnes qui veulent savoir, qui suspectent quelque chose qui se serait passé peut-être dans leur enfance et qui veulent aller chercher sous état hypnotique. Et là, c'est la meilleure façon de créer des faux souvenirs et c'est surtout la chose à ne pas faire. Donc, hein, on n'est pas loin de la suspicion à la création et il faut être très vigilant à ça.
Et comment se déroule une séance ?
Alors la séance, le plus souvent, elle se déroule assise. La première fois, déjà, il y a l'accueil. C'est important d'établir cette relation de confiance, hein, comme tout thérapeute, praticien. Il y a le moment de l'anamnèse, hein, où on va définir avec la personne ce qu'elle souhaite, ce qu'elle veut, quel est le problème et qu'est-ce qu'elle veut à la place, vers quoi elle veut tendre. Hein. On va essayer de voir s'il y a un événement déclencheur et quelque chose à un petit peu couper par rapport à ça, un petit peu détacher la personne de cet événement douloureux. Et puis, on présente l'hypnose sur la première fois pour rassurer, expliquer comment ça va se dérouler la séance. On fait un petit test qu'on appelle les tests de suggestibilité, hein, et qui permet de rassurer la personne et puis de se rendre compte que elle perd pas connaissance, elle perd pas conscience, elle est là même s'il y a des choses qui se passent, comme les doigts, on appelle le test des doigts aimantés, où on s'aperçoit que les doigts se rapprochent comme s'il y avait un aimant, alors qu'on n'y a pas mis de volonté et ça se passe tout seul. Donc ça permet de voir aussi avec les mots de l'hypnothérapeute, du praticien en hypnose, que des choses peuvent se faire quand il les suggère. Et puis, donc, après ces petits tests de suggestibilité, il y a l'induction, qu'on appelle aussi la mise en transe hypnotique. En hypnose ericksonienne, on peut aussi parler du parler flou, c'est-à-dire qu'on essaye de mettre de côté le conscient, l'analyse, tout ce qui est très rationnel, pour aller toucher l'inconscient. Donc il y a ce moment qui est très important de l'induction. Ensuite, on convient d'un signal avec cet inconscient pour dire qu'il nous dise oui ou non, si c'est ce qu'il souhaite, ce n'est pas ce qu'il souhaite, s'il veut nous dire non au moment du travail thérapeutique en lui-même, avec différents protocoles selon les besoins de la personne. Ça peut durer une dizaine, une quinzaine de minutes. Et puis après, petit à petit, il y a la sortie de l'état hypnotique. On revient dans l'état normal. Donc on est très très vigilant dans cette remontée, comme on dit, à l'état de conscience normale, avec des instructions directes. Et ensuite, il y a des échanges sur la séance. En général, une séance dure environ une heure quinze, peut-être un petit peu plus pour la première séance, parce qu'il y a tout ce travail au préalable. Pour les séances suivantes, bien sûr, on voit ce qui a changé, si l'objectif est toujours le même, s'il y a de l'amélioration, si on veut travailler sur autre chose. Parce que parfois, c'est comme un oignon, il y a des couches à enlever. Il y a une première couche, la première demande, et puis cette couche-là, elle a été résolue lors d'une première séance. Des fois, ça suffit, mais des fois, apparaît autre chose derrière, dont la personne n'avait pas conscience au départ. Et donc, on va peut-être faire une séance pour travailler un petit peu plus en profondeur sur cette deuxième couche, sur cette troisième couche, si besoin. Selon les demandes, il y a une, deux séances, voire plus, selon le besoin, ce qui se présente. Voilà, la souffrance ou l'événement qui est à régler.
Et comment vous contacter et où venir vous voir ?
Alors moi, je pratique, j'ai mon cabinet à l'Argentière-l'ABC, 8 rue du Plan d'Ergue. J'ai des horaires de présence, c'est le mardi matin et le jeudi matin, et les vendredis et samedis après-midi. En fait, c'est que sur rendez-vous. Je vous laisse mon numéro de téléphone, c'est le 06 60 26 65 85 pour prendre rendez-vous. Et on convient d'un rendez-vous pour faire connaissance et voir ce que je peux faire pour vous aider.
Merci beaucoup.
Merci Laura, merci infiniment.
Mm-hmm.